French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien de la CFE. La CFE, vous connaissez ? C'est la Caisse des Français de l'étranger et il s'agit d'une caisse de sécurité sociale créée en 78 pour les Français résidant hors de France. Maladie, maternité, accident du travail ou encore retraite, la CFE permet aux Français de l'étranger de continuer de bénéficier de la même protection sociale qu'en France à l'étranger. Pour en profiter, il vous suffit d'adhérer à la CFE, peu importe votre situation, peu importe le pays dans lequel vous vivez ou dans lequel vous vous rendez, et bien entendu, peu importe la pathologie ou les circonstances, catastrophes naturelles, faits de guerre, etc. Grâce à la CFE, vous pouvez vous détendre. La Caisse des Français de l'étranger assure la continuité avec le système français de sécurité sociale lors de votre départ de France, mais aussi lors de votre retour d'expatriation, ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr.
Coucou, c'est Anne Fleur. Pas de panique, l'épisode de French Expat, le podcast, va commencer dans un instant. Voilà enfin 2021. On place tous beaucoup d'espoir dans cette nouvelle année, encore plus que d'habitude. Et d'ailleurs, je suis impressionnée de voir le nombre d'entre vous qui est en pleine préparation d'une expatriation imminente. L'expat, c'est souvent l'aventure, le projet d'une vie aussi. Et pour que ça se passe bien, bah ça se prépare un minimum. Personnellement, en quittant la France, j'étais prête à beaucoup de concessions, mais la santé, c'était vraiment ma limite. Et récemment, j'ai découvert Santé Expat. Il s'agit du tout premier comparateur et courtier d'assurance, complètement en ligne, pour les expats français partout dans le monde. En gros, leur plateforme pose quelques questions. Elle vous propose automatiquement 3 offres en fonction de votre pays d'expat, mais aussi de votre profil. Bah ouais, on n'a pas les mêmes besoins quand on s'expatrie en tant que célibataire à Singapour ou au Canada en famille. Et ce que je trouve vraiment chouette dans leur offre, c'est qu'une fois qu'ils vous ont aidé à trouver la bonne assurance, ils restent complètement dispo et vous accompagnent en français pendant tout votre séjour pour répondre à toutes vos questions santé et vous aider à gérer les imprévus. Et ça, franchement, après 10 ans d'expatriation, je peux vous dire que ça n'a pas de prix. En tout cas, je remercie sincèrement Santé Expat pour son soutien auprès de French Expat, le podcast, et je vous invite vraiment à aller jeter un coup d'œil à ce qu'il propose sur santexpat.fr, santexpat.fr. Allez, maintenant, place à l'épisode.
Et je sais pas comment traduire ça, mais il y avait beaucoup de renforcement positif, tu sais. Où on te booste, où on insiste sur ta valeur, et du coup, ça te motive à bosser mieux. T'as pas de crédit score, c'est limite. Enfin, déjà, ouvrir un compte, avoir une carte de crédit, je crois qu'on s'est fait jeter d'une banque au début parce que bah, t'as rien du tout. J'ai plus vécu en Belgique depuis 10 ans, donc pour moi, je viens toujours de là. La question qui est vache, c'est where is home? Où est la maison, tu vois? Et la maison, elle est ici.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents au rendez-vous de ce nouvel épisode de French Expat, le podcast. French Expat, le podcast, c'est le podcast qui donne la parole aux expats français et francophones des quatre coins du monde. Notre but, c'est de raconter des histoires singulières d'aventuriers des temps modernes. On vous propose ainsi chaque semaine, tous les lundis, un nouvel épisode et on discute avec nos invités de l'expatriation qu'ils vivent ou qu'ils ont vécu. Moi, c'est Anne Fleur et je vous parle depuis Boston, aux États-Unis. Mon invité du jour a quitté son plein pays natal il y a tout juste 10 ans et a vécu successivement en France, où elle a rejoint celui qui est désormais son mari, puis à Londres, et enfin dans la Silicon Valley, en Californie, juste à côté de San Francisco. Dans l'épisode d'aujourd'hui, Caroline nous raconte que finalement la plus difficile de toutes ses expatriations fut celle la plus proche, la France. Elle fait enfin tomber un mythe et nous explique ce qu'est concrètement le dress code business casual, mais aussi le management à la British. On discute visa, green card, mélange des cultures et des langues lorsque l'on fonde sa famille, et l'on discute aussi de la vie d'une travailleuse chez Google au cœur même de la Silicon Valley, chez un géant de la tech. L'épisode le plus long à date, mais un épisode passionnant, alors sans plus tarder, voici ma rencontre avec Caroline. Bonjour Caroline, bienvenue sur le podcast.
Coucou Anne-Fleur.
Où est-ce que tu es située ce soir? D'où est-ce que tu nous parles?
Alors, depuis Berkeley en Californie et depuis ma chambre où je suis, pour être précise, où je suis pour avoir du calme parce que mon mari et mon bébé et mon chien sont dans le reste de la maison.
Tu es donc terrée.
C'est ça.
Super. Alors aujourd'hui donc on discutait de ton expatriation, de tes expatriations d'ailleurs, donc on va rentrer un petit peu en détail. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, m'expliquer un peu à quoi ressemble ta vie d'aujourd'hui, à ta famille, quel âge tu as et d'où tu viens?
Alors ben, je m'appelle Caroline, j'ai 37 ans. J'habite à Berkeley, donc en Californie, pas très loin de l'université de Berkeley. J'ai un mari, un bébé de 15 mois bientôt et un chien de 3 ans, un Golden Retriever. D'où je viens ? Je viens de Belgique, je viens d'un patelin près de Liège qui s'appelle Nandrin, où il n'y a pas grand-chose, il y a les vaches notamment.
Et du pays des gaufres.
Exactement, pas loin de Liège, les gaufres de Liège, les fameuses. Et donc, j'ai un diplôme de communication. Pour l'instant, je ne travaille pas. Je m'occupe de mon bébé.
Alors, à quand remonte ta toute première expatriation ?
Alors, ma toute première expatriation, c'est marrant qu'on fasse ça en ce moment parce que ça fait tout juste 10 ans. Ça fait tout juste 10 ans que j'ai quitté mon plat pays, ma petite Belgique. C'était en janvier 2010. Et j'ai quitté la Belgique pour Lyon à l'époque, pour rejoindre celui qui allait être mon mari, mais qui était à l'époque juste mon copain, et qui lui, ben, il est français, et moi je suis belge. Et donc voilà, c'était il y a 10 ans, tout rond. 10 ans que j'ai plus vécu dans mon petit pays, adoré.
Voilà. Ah ouais, donc on pouvait pas beaucoup mieux tomber là. Alors c'est rigolo parce que Lyon, je l'ai déjà dit dans le podcast, mais c'est il y a quelque chose avec les gens qui viennent du nord de la France et les gens qui viennent de Lyon. On a quasiment tous les invités qu'on a sur le podcast viennent d'une de ces deux régions. Est-ce que tu peux me raconter justement donc dans quel contexte est-ce que tu t'es expatriée en France du coup à Lyon et puis bah comment ça s'est passé quoi?
J'ai rencontré mon copain, donc Nico, qui est devenu mon mari à l'université en 2008. On est sortis ensemble, c'était à Bruxelles, il faisait ses études à Bruxelles. Et puis après, ben, on a été diplômés la même année, donc toujours 2008. Et on a commencé à bosser chacun dans son pays parce que lui voulait commencer sa carrière en France. Et moi, ben, j'allais pas tout balancer pour une relation qui, à ce moment-là, était toute jeune. Donc on a fait un an et demi, je pense, à distance. Et à un moment, on en a eu marre. Et du coup, comme lui avait... Ben lui, il est ingénieur. Donc, lui voulait poursuivre sa carrière en France. Et moi, j'avais un boulot qui n'était pas forcément le boulot le plus intéressant du monde à ce moment-là, en Belgique. Ben, du coup, je me suis dit, ben, tiens, tentons l'aventure parce que j'en peux plus des TGV. J'en ai marre de connaître les horaires par cœur. J'en ai marre. Donc, ouais. Voilà, la SNCF, voilà, c'est pas... C'est pas ma meilleure pote. Déjà, ils prennent plein de thunes et en plus, voilà, le concept de place assise non garantie, c'est un truc que je déteste. Et j'en avais tout le temps. Donc voilà. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée à Lyon. Donc j'y étais allée quelques fois avant, bah, pour le rejoindre, pour le retrouver par-ci par-là. Et alors, étonnamment, donc là, je fais un spoiler pour la suite, mais donc j'ai eu 3 expatriations en tout. Et bizarrement, c'était celle-là la plus difficile.
Ah ouais, bah raconte, comme pourquoi ?
Alors du coup, je ne sais pas t'expliquer en fait, parce que c'est la même langue, donc il n'y a pas de différence de langue, il n'y a pas de différence de... T'as l'impression au premier abord qu'il n'y a pas énormément de différence de culture, parce qu'on a tous les... Enfin, la Belgique francophone, t'as la même culture que la France quelque part, parce que ben, tu regardes la même télé, tu lis les mêmes bouquins. Mais au final, il y avait un côté assez, assez compliqué... Où je suis tombée aussi, je pense, dans un boulot qui n'était pas exceptionnel en termes. J'étais rédactrice scientifique à ce moment-là. Et okay. Et le truc, c'est que je sais pas, il y avait un truc avec l'équipe et tout. C'était, il y avait ce côté, ouais, t'es belge, ouais, tu dois être trop contente d'être en France maintenant. Ben écoute, ça va. Et ils avaient l'impression qu'en fait, en Belgique, limite, on n'avait pas la télé, je sais pas. Et t'as ce côté où on dit toujours, ah, tu parles un peu belge, et toi, je parle le même français que toi. Enfin, tu vois, je dis 70 et 90, tu vois, mais donc t'avais ce côté-là. Et puis, ben, je pense aussi que c'était un peu compliqué parce que, ben, j'avais lâché ma famille, mes amis. Et du coup, ben, mon mari, lui, il était dans son fief, entre guillemets. Et je crois qu'il y avait une certaine inégalité qui était frustrante à la longue aussi de ce côté-là. Et ouais, il y a un côté paternaliste de la France envers la Belgique qui parfois est un... Ouais, mais je vous aime beaucoup, hein. Avec le nord de la France, je pense que c'est un peu pareil en fait. Ouais, Paris, d'accord. Paris vs le nord de la France, je veux dire.
D'accord, non, mais c'est super intéressant, effectivement. Et c'est vrai qu'on n'a jamais encore accueilli de personnes francophones, du coup, qui se seraient expatriées en France. Donc, c'est super intéressant, en fait, comme retour.
Après, c'est mon expérience. Hein. Si ça se trouve, t'en as plein qui ont des expériences vraiment chouettes. Mais c'est vrai que je suis tombée avec des gens dans mon boulot qui avaient l'esprit assez étroit et pas beaucoup de curiosité. Ouais. Et je pense que c'était le premier contact que j'ai eu avec des gens qui n'étaient pas des amis de mon mari ou de la famille de mon mari. Ouais. Et c'était un peu, mais mon Dieu, je suis tombée où, quoi. Et donc, mais par contre, le truc dingue, c'est que avant d'en être arrivée là et de vivre à Lyon, j'avais pas vraiment de fierté d'être belge. Et en fait, ça m'a vraiment boosté. En Belgique, on n'est pas très nationaliste. Ouais, enfin, on n'a pas ce côté drapeau et tout ça. Donc voilà, c'était plutôt chouette. Enfin, sauf quand il y a des matchs de foot, mais ça, c'est une autre.
Oui, c'est un autre débat. Mais c'est vrai, hein, je pense que tu as raison. Je pense que l'expatriation, le fait de se déraciner, en fait, exacerbe la fierté qu'on peut avoir de nos racines, quoi.
Ouais, non, c'est vraiment ça. C'est un peu... C'est assez dingue, en fait. C'est vraiment dingue. Tu t'en arrives à défendre des trucs ou à, enfin, par exemple, là, mais tu me feras pas dire un 70. Enfin, là, j'en ai dit un pour le dire, mais je vais caler sur mon 70. Hein. C'est plutôt mourir, quoi. Non, du 80, alors, ouais. donc.
D'accord. Et alors, du coup, t'es resté du coup combien de temps en France et du coup, ça a été quoi? Ça a été aussi une grande discussion avec ton copain de l'époque, qui est donc Nico, parce que donc il y avait ce climat ambiant qui était pas du coup super accueillant, ce que je comprends. Et puis Nico, lui, avait toute sa famille, tous ses amis, toutes ses racines finalement, et cette inégalité était un petit peu dure à vivre, c'est ça?
C'est ça, ouais. Et après, je pense que Nico, du coup, lui, il était un peu frustré au niveau pro aussi, l'air de rien. Et tous les deux, on avait un peu envie d'autre chose. Lui voyait que j'étais frustrée et ça lui faisait pas plaisir. Et il avait envie d'autre chose aussi. Donc à ce moment-là, ben déjà, entre temps, on s'est marié. On s'est marié en Belgique d'ailleurs. Et donc entre temps, on s'est marié. Puis on a discuté un peu de bouger en Belgique. Mais on en a discuté un peu du bout des lèvres. Je crois que c'était pas ça qu'on voulait vraiment à ce moment-là. Et puis, via LinkedIn, un moment, t'as un gars qui a contacté Nico pour un boulot en Angleterre. Le truc qu'on cherchait pas. Et en fait, ça nous a ouvert la porte. Ça nous a ouvert la porte à la possibilité. Donc là, il a refait tout son CV en ligne et il a commencé à vraiment chercher activement à Londres. Mais lui aussi avait envie d'autre chose et moi aussi, on avait toujours eu envie de vivre dans un pays anglophone. Londres, ça lui ouvrait des autres possibilités en termes professionnels. Parce qu'à ce moment-là, il avait switché d'ingénieur informatique à développeur iOS à ce moment-là. Et du coup, les opportunités en Angleterre étaient vachement, vachement alléchantes. Et donc, c'est comme ça qu'en octobre ou en septembre 2013, on a atterri à Londres.
Et c'est marrant, en fait, parce que du coup, c'est quelqu'un qui l'a contacté pour un job. Et finalement, c'est même pas pour ce job-là qu'il a bougé.
Non.
Mais ça a été le déclic, ça a été, en fait, c'est ça qu'on voudrait, quoi.
Bah, ça a été, en fait, c'est même pas c'est ça qu'on voudrait. Ça a été, tiens, c'est possible, on n'y avait pas pensé, tu vois.
Ouais.
Et ça coupe la poire en deux, parce que Nico avait pas une envie fulgurante d'aller en Belgique, parce que, ben... Voilà, déjà en Belgique, t'as ce côté où si tu veux bosser à Bruxelles, souvent tu dois être bilingue. Voilà, on n'a pas la télé, on n'a pas M6, c'est vrai, mais on a autre chose. Mais il y a ce côté où tu dois être bilingue, tu vois, si tu veux, si t'es à Bruxelles, du coup, tu dois parler néerlandais. Pour beaucoup de boulot, c'est un truc qui te demande d'avoir un minimum de niveau. Spoiler, j'en ai pas non plus. J'ai étudié ça 5 ans, j'ai étudié 5 ans de néerlandais, mais tu pratiques pas, en fait, tu l'entends jamais. Tout est traduit pour le marché francophone. Du coup, tu as jamais de situation où tu dois faire l'effort de le faire. Si tu parles néerlandais en Flandre, ils s'aperçoivent très vite que t'es pas forcément bon. Voilà, du coup, ils répondent soit en français, soit ils répondent en anglais. Donc voilà, du coup, mon niveau de néerlandais est assez faible, voilà. Malgré toutes ces années d'études.
Donc, avant de décrire ton expérience en Angleterre, je voudrais juste revenir encore une petite seconde sur ta première expatriation en France. Donc, tu dis qu'il y a eu un choc culturel, comme,
Comme il y en a toujours, en fait.
Exactement, on passe tous par des chocs culturels plus ou moins grands.
C'est juste celui-là, tu t'y attends pas trop parce que toi-même, tu as l'impression que c'est la même chose. Enfin, pas que c'est la même chose, mais qu'on est des voisins tellement proches qu'on est limite cousins. Et en fait, quand tu es vraiment dedans, tu t'aperçois, mais en fait, non, il y a plein de choses qui diffèrent, l'air de rien, entre les deux cultures, quoi.
Et à l'inverse, justement, est-ce que tu as eu aussi des bonnes surprises, des trucs auxquels tu t'attendais pas du tout qui ont été cool?
Oui. Mais déjà, les amis de mon mari, ben là, c'est pas du tout le même feeling, mais je crois que j'ai eu l'impression qu'en fait, à Lyon, il fallait que tu sois, que tu connaisses déjà bien les gens pour que ça se passe bien. Alors qu'en Belgique, c'est pas le même sentiment, mais mon mari va te dire l'inverse quand il est arrivé en Belgique, lui. Donc, tu vois, c'est. Sinon, qu'est-ce que j'ai eu comme truc? Ben, déjà, rien que la richesse de vos paysages, rien que ça, c'était dingue par rapport à la Belgique. Bah, où t'as la mer du Nord, t'as la mer du Nord, et puis t'as la mer du Nord. Les Hauts-de-Fagne, je sais plus quel est le point culminant, mais je me demande si c'est pas 640 mètres ou un truc comme ça. Mm-hmm. Donc, à Lyon, on était pas loin de la montagne, on était pas loin de la mer, pas très loin de la mer. T'as cette richesse de paysages. Lyon, c'était une ville magnifique. À chaque fois qu'on avait de la famille ou des amis qui venaient, mais on leur faisait faire des tours, on se baladait dans le vieux Lyon pendant des heures. C'était vraiment super chouette. Quoi d'autre? Ah ben, il y a plein de trucs de bouffe que vous avez qu'on n'a pas en Belgique. Hein, vous avez... Donc, il y a plein de choses en termes d'alimentation. La bouffe en France est vraiment une religion. En Belgique, un peu moins, j'ai l'impression.
D'accord.
En France, c'est vraiment une... Non, c'était...
Oui, religion, c'est le bon mot.
C'est ça. En France, en Belgique, c'est pas à ce point-là. Ouais, attends, quoi d'autre? Je m'attendais pas à cette question-là.
Non, mais ça donne une idée. C'est vrai que c'est intéressant, quoi. On se met pas forcément vraiment dans les chaussures de ceux qui débarquent en France. Donc, c'est très intéressant. Alors, du coup, donc tu passes au total, du coup, combien de 3 ans à Lyon, c'est ça? 3 ans et demi?
3 ans et demi, ouais. Presque, ouais, 3 ans et demi.
Presque 4. Hein, en janvier, presque c'est arrivé, d'accord. Et donc, fin 2013, te voilà avec Nico. Vous êtes donc fraîchement mariés et vous voilà qui débarquez à Londres.
Ouais.
Comment est-ce que vous avez préparé cette expatriation? Combien de temps d'ailleurs ça lui a pris de trouver le job qui allait vous faire traverser la Manche?
Ah mais là c'était n'importe quoi, hein. Je crois qu'on s'est marié en juin. Il a dû avoir le contact avec le gars en juillet et on est parti en septembre, il me semble. Fin août, on est allé faire un repérage d'appart et tout ça. Et on est parti. C'était septembre. Octobre, c'est ici. C'était septembre là-bas. C'était super rapide, donc t'as même pas vraiment le temps de flipper, parce qu'en fait t'es juste dans, oh mon dieu, il faut qu'on fasse les cartons, il faut qu'on trouve un déménageur, il faut qu'on ait une adresse à filer au déménageur pour qu'il amène nos cartons quelque part. C'était un peu le sprint, essayer un peu de comprendre quelles étaient les démarches administratives à faire. Donc ça, c'était pré-Brexit, donc c'était plus simple qu'aujourd'hui. Il n'y en avait pas énormément, d'ailleurs, de démarches administratives à faire. C'était assez simple. C'était un peu comme en Europe, comme en France. Tu as le côté où tu as tout qui est pris en charge au niveau médical. Au niveau du boulot, tu n'as aucun truc à demander comme autorisation pour travailler. C'était hyper simple. Tu étais toujours dans l'Union européenne. Du coup, c'était honnêtement facile. Et par contre, ce qui nous avait fait rire, c'est quand on y allait, on nous avait préparé que les prix des locations étaient super chers. Et puis on arrive, on voit les prix, on se dit « Ah, mais ça va en fait !» Qu'est-ce que les gens s'excitent et tout. Et en fait, on n'a pas compris tout de suite que PW après le prix, c'était par semaine. Et donc ça a été une petite claque en fait. Parce que oui, fois 4, c'était surprenant. Oui, parce qu'au début, tu te dis, ah, mais ça va, je ne sais pas, moi, 500 par semaine ou 350 par semaine, je ne sais plus. Ça va encore, par mois, pardon. Ça va, tu vois, c'est des prix. On trouvait même ça plutôt bon marché au final. Mm-hmm. Et puis, ben non. Et puis ben non, donc et en plus quand tu visites Londres, tu vois, tu te demandes jamais où tu vas vivre à Londres, et Londres est vachement grande, et du coup il a fallu trouver les quartiers qui nous inspiraient en faisant ça super vite. Et donc c'était une petite aventure en soi.
Et comment est-ce que justement vous avez fait vos recherches? Donc vous avez fait un petit voyage de repérage fin août pour trouver une adresse du coup
dans ces eaux-là, on savait où était le boulot
de forums, de sites internet, etc. Mais en 2013, tu, tu t'adresses à qui, quoi, en fait, pour avoir un peu des...
Eh ben, en fait, à l'époque, je me suis adressée à une copine qui habitait là. Donc, vachement simple. Une copine belge qui vivait déjà à Londres et qui m'a donné plein d'infos administratives pratiques, ben qui connaissait les quartiers qui nous intéressaient et qui m'a dit ah ben là ça craint ou là c'est bien ou là c'est sympa ou là il y a plein de vie et tout machin. Et puis ben nous on savait plus ou moins, je crois qu'on avait plus ou moins décidé dans quel quartier on voulait être. On voulait être dans le nord de Londres. Et du coup on a pris un Airbnb pour quelques jours. Et on a rayonné à partir de là avec le métro et on a un peu exploré des quartiers, marché jusqu'à avoir un complet coup de foudre pour un petit coin. Et du coup on s'est installé là-bas assez vite. Highbury and Islington.
Génial. Alors moi je connais pas du tout Londres donc je pourrais pas trop commenter là-dessus.
Mais c'était vraiment mignon, c'était adorable, il y avait une petite rue marchande qui s'appelait je ne sais plus comment elle s'appelait. mais elle était vraiment top. Comment elle s'appelait? Eh ben écoute, ça me reviendra.
Tu nous diras. On mettra sur Mapster. Alors du coup, donc te voilà. T'arrives à Londres finalement. Donc vous trouvez un lieu qui vous plaît. Du coup, c'est là que vous restez toute votre expatriation?
Non, ce serait trop simple.
Ah.
ce serait beaucoup trop simple. Donc en fait, on est arrivé à Londres. Nico avait un boulot, moi j'en avais pas. Mais j'avais le droit de travailler. Mais bon, le truc c'est que en tant qu'ingénieur, lui, c'était simple. Il claque des doigts, voilà. Il a même pas besoin parfois de chercher du boulot. Le boulot arrive tout seul. Mais en tant que... Donc moi, j'ai un diplôme journaliste de communication en français. Donc tu te doutes bien que je m'exporte pas très bien.
Ouais. Tu parlais anglais du coup à l'époque ?
Je parlais anglais, mais il y a aucun monde où mon anglais peut être natif en fait, parce que j'ai pas les références, j'ai pas l'humour exact qu'il faut. D'ailleurs, c'est comme quand toi, enfin j'imagine quand toi t'es arrivé ici, parfois ton humour, tu fais une blague et en fait ta blague elle est drôle pour toi, mais elle est pas forcément drôle pour les Américains. c'était hardcore du coup et donc il y a plein de trucs où ton anglais va être bon à l'écrit, mais ça va être flagrant que t'es pas natif pour des petites tournures de phrases qui sont pas grammaticalement incorrectes, mais qui sont pas natives et ça se sent pour n'importe qui te lit. Et donc en étant à l'écrit, que ce soit pour du community management, parce que c'était ça que je faisais à la fin à Lyon, que ce soit pour du community management ou pour simplement de la presse, mais j'ai jamais bossé dans la presse parce que le boulot là-bas c'est un petit peu compliqué. La presse c'est un secteur qui est assez complexe et qui ne paye pas très très bien et qui ne nourrit pas beaucoup. Du coup, c'était assez tendu. Donc, chercher du boulot où il cherchait quelqu'un qui parlait français, où le français était un plus. Mais le truc, c'est qu'il y a énormément de francophones et de français à Londres. Du coup, la lutte est intense.
Et, beaucoup de compétition.
C'est ça, beaucoup de compétition. Mais par contre, au niveau du boulot, ils ont un côté, je pense, un petit peu comme ici, où ils sont super, super positifs quand ils te reçoivent. Et quand tu sors de là, t'es hyper reboosté. Et tu te dis, ah mon Dieu, j'ai fait cet entretien comme une déesse. Mon Dieu, c'est génial. Et en fait, le boulot, tu l'as quand même pas parce qu'ils sont sympas. En fait. Donc, tu as le contact, tu sens que le contact est bien passé, mais c'est juste, c'est comme ici, quelque part, où ils sont très, très, très positifs. Donc, voilà, il y a des fois où tu l'avais pas, mais au final, j'ai trouvé un job après. Et qui était en dehors de Londres, en fait, qui était près de l'aéroport de Luton. Donc, t'as tout le monde qui fait le trajet, qui commute.
Dans Londres.
Ouais, c'est ça. Tout le monde commute de l'extérieur de Londres vers Londres. Et puis, t'as les autres qui commutent dans l'autre sens. Donc, moi, j'avais toujours des trains vides. Mais j'avais un long commute, du coup, après un an dans notre appart, qu'on adorait. On a déménagé pour être plus proche d'une gare, parce que j'avais... ça me supprimait une correspondance, en fait. Donc, on a changé de quartier dans un quartier qu'on aimait un peu moins, qui était toujours sympa, mais pour lequel on n'avait pas de coup de cœur. C'était vraiment l'aspect pratique.
Ouais, et c'était quoi le nouveau quartier ?
C'était West Hampstead.
D'accord.
Toujours dans le
nord. Et alors, je voulais revenir sur un truc que tu as dit justement, c'est que le nombre de Français ou de francophones qu'il y a à Londres, c'est un peu hallucinant. Il n'y a pas une stat justement qui était sortie là-dessus, qui disait que la langue étrangère la plus parlée à Londres, c'était le français. Il n'y a pas un truc comme ça ?
Je ne l'ai pas lu, mais ça ne m'étonnerait pas, en fait. Ça ne m'étonnerait pas. La rue qu'on aimait bien à Highbury and Islington, c'était Upper Street. Voilà, juste. C'est ça. J'ai retrouvé. C'est wouh. Donc voilà, désolée pour le hors sujet. Mais ouais, non, il y a énormément de francophones. T'entends beaucoup parler français, mais après, t'entends beaucoup parler un peu toutes les langues. T'entends beaucoup parler italien. T'entends vraiment beaucoup de choses. Et aussi, ce qu'on adorait à Londres, c'était t'avais une richesse au niveau des restos, mais c'était un truc de fou, quoi. T'avais les Italiens étaient à tomber par terre, les Asiatiques étaient à tomber par terre. C'était génial, quoi. Alors que trouver une bonne pizza à Lyon, c'était dur pour moi.
C'est vrai.
Je t'assure, il y avait toujours un moment où on mettait du gruyère. Non, attends, il y a un autre fromage. C'est quoi l'autre fromage? Un fromage. Ah, comment il s'appelle? Je sais plus. Un fromage où tout le monde trouve qu'il n'a pas d'odeur, mais moi, je trouve qu'il en a une. Et il y avait toujours ce fromage sur la pizza. Qu'est-ce que c'est? Je sais plus. C'est comme du gruyère. Mais je mange pas de fromage du tout. Non, encore un autre.
Tu comptais une...
Encore un autre.
Je sais pas.
Mais du coup, il y avait toujours ça. Et c'était jamais des pizzas italiennes ou napolitaines. C'était toujours des pizzas un petit peu passées à la sauce française avec des fromages en plus. Alors que moi, je voulais juste de la mozza, je voulais juste de la bonne sauce tomate. Et du coup, quand on est arrivé à Londres, j'ai trouvé deux, trois pizzerias où c'était juste le paradis, quoi. Tu es à moitié italienne, hein, donc...
Ah, je t'explique cela, d'accord.
Voilà.
Ok, il fallait le dire.
Non, donc voilà, mais du coup, c'était dingue. Mais Londres a été un coup de cœur, autant pour moi que pour mon mari, en fait.
Génial, donc super bonne, je veux dire, enfin bonne surprise, voilà, d'arriver dans cette nouvelle culture, dans cette nouvelle ville. Tu peux nous parler justement un peu de votre vie là-bas, de comment est-ce qu'on se fait justement à cette... on vit maintenant, c'est une deuxième expatriation dans une nouvelle langue et la culture anglo-saxonne, même si à nouveau on n'est pas très très loin de la France et de la Belgique, j'imagine, est quand même sacrément différente.
Elle est sacrément différente. Du coup, il y a déjà il y a un côté où le customer care est un peu plus comme aux US qu'en Belgique ou en France. Donc tu as le côté très sourire.
Le service client.
Oui, voilà, le service client est beaucoup plus chaleureux en fait. Les gens vont sourire dans la rue, dès qu'ils vont devoir te poser une question, ils vont s'arrêter, ils vont dire ah ça va machin. Et le truc qui me frappait, c'était j'allais à la pharmacie, j'étais à la caisse du supermarché, mais on me sortait du darling, du honey, du tout ce que tu veux, mais il y avait jamais un côté lourd comme tu peux parfois ressentir. Dans la langue française, en fait, tu sais, quand t'as quelqu'un qui dit « Hey chérie, ça va ?» et t'as juste envie de te barrer en courant. Ouais. Et là, il y avait vraiment un côté super gentil qui était vraiment... il y avait un côté très, très chaleureux. C'était une ville immense et à côté de ça, on n'avait jamais l'impression d'être dans une ville de cette taille-là. Je ne sais pas comment expliquer. Il y avait un côté où tu te sentais toujours un peu dans un petit village. Chaque quartier était un petit village. On marchait énormément. On allait dans plein de... Je crois qu'on mangeait beaucoup au resto à cette époque-là. C'était l'époque où on pouvait sortir le soir. et ouais, du coup, je sais pas, c'était un coup de foudre, cette ville. On adorait se balader. Il y avait un mélange de plein de langues. Ton serveur pouvait être italien. Un jour, on a eu un serveur avec une copine qui nous a expliqué qu'il était écossais. Et j'ai reconnu l'accent parce qu'on venait de revenir d'Écosse. Et du coup, je lui dis, hey, t'es écossais, machin. Il me dit, ouais, et tu sais, j'ai joué dans Outlander, j'étais le témoin numéro 4 dans l'épisode, machin, tu vois. Et en gros, il me disait, j'essaye de percer en tant qu'acteur, mais je bosse dans ma pizzeria, comme serveur dans la pizzeria en parallèle. Mais oui, il y avait un côté où, tu sais, comme ici, où parfois les gens vont te raconter leur vie, des morceaux de leur vie, alors que t'es pas forcément ami avec eux et que tu les reverras jamais, mais t'as ce côté de proximité. Je trouve.
Non, t'as raison. Et je pense que c'est très anglo-saxon, effectivement.
Oui. Je pense aussi.
Ouais.
Parce qu'on a retrouvé ça ici avec une autre dynamique, un petit peu. Mm-hmm. Mais on a retrouvé ça ici aussi, c'est clair.
Et alors, comment toi, se passe le nouveau boulot? Je serais intéressée même de voir la culture du travail, en fait. Comment est-ce qu'elle diffère alors que t'es au sein de l'Europe, en fait, du coup, qui a travaillé en Belgique, en France et en Angleterre. Qu'est-ce que t'as noté? Et peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à noter, d'ailleurs, hein, mais en termes de mentalité, de manière de travailler.
La manière de manager aussi, encore. La manière de diriger des managers n'est pas du tout la même qu'en Belgique ou en France. Alors, en Belgique, j'ai eu une expérience particulière parce que j'étais dans le service public, voilà. Donc j'étais dans le service public, ce qui était un monde à part du privé, et j'avais un boss qui était absolument génial, mais qui je pense représentait une ancienne génération, parce qu'il était assez âgé, et je pense qu'il ne représentait pas le monde du travail comme il était à ce moment-là. Donc j'ai eu de la chance. Et à Londres, en fait, c'était très positif, en fait. Il y avait j'étais dans une équipe multilingue, il y avait des Turcs, il y avait des Espagnols, il y avait des Italiens, et donc on faisait du service client justement pour de l'automobile. Donc moi j'étais en charge de la France, et donc sur Twitter, et chacun gérait son pays. Donc mon boss déjà gérait plein de pays différents en quelque sorte, donc il y avait un côté où souvent il te faisait confiance parce qu'il ne parlait pas toutes les langues, donc il te laissait un peu gérer dans ta langue le ton que tu employais, tu avais des lignes directrices, mais il y avait beaucoup de confiance, et je ne sais pas comment traduire ça, mais il y avait beaucoup de renforcement positif, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? Il y avait ce côté où on te booste, où on insiste sur ta valeur, et du coup ça te motive à bosser mieux. Ouais. Et donc il y avait ce côté-là, qui je pense est un peu absent tant en Belgique qu'en France, ou pas aussi présent.
C'est pas les mêmes méthodes. Absent,
voilà, c'est ça. Et il y avait ce côté qui était où tu rigolais beaucoup, mais en même temps c'était assez carré. Je me rappelle qu'on avait un code vestimentaire. C'était business casual.
Ça m'intéresse. Hein.
Ah bah écoute, moi j'ai eu besoin qu'on me le définisse aussi, tu vois, parce que moi j'entends business casual, donc j'entends que c'est casual. Ouais. Et bah en fait non, c'était pas casual. En gros, business casual, ça veut juste dire que si t'es une fille, tu n'es pas obligée de... T'as pas le droit au jean, t'as pas le droit au t-shirt, mais tu peux mettre un pull. T'as pas le droit au basket. Du coup, en fait, c'est juste business. Le casual, je sais pas pourquoi il est là. Et les garçons, tout ce que ça impliquait, c'était qu'ils n'étaient pas obligés de mettre une cravate. Et le truc, c'est que business casual, j'ai eu un débat avec mon boss à ce sujet-là. Je lui dis quand même, tu m'excuseras, mais c'est pas clair. Hein. Ouais, donc à un moment, j'ai essayé de rouler sur la tendance et j'ai mis un jean noir. Et il m'a dit, j'ai vu ce que t'as fait, ça passe pas.
Ah ouais, carrément. Ah, c'est vachement formel quand même.
Ouais, et le jean noir, tu vois, je me disais, allez, de loin, ouais, ça peut-être passer sur un malentendu, tu vois. Maintenant, il m'a dit en rigolant, il était vraiment super gentil. Il m'a dit en rigolant, j'ai vu, mais non, ça ne marche pas.
Waouh.
Donc, on avait des grands débats sur, et ça, c'est business casual? Non. Et ça, c'est business casual? Non. Ah. Mais il a vraiment fallu qu'on ait beaucoup de discussions, parce que pour moi, c'était, t'appelles pas un truc casual si c'est tout sauf casual, quoi. Enfin, c'est mentir sur la marchandise, quoi.
Donc, tu ne te laisses pas faire, mais t'as bien raison.
Ah,
t'as
quand même
un petit côté, tu vois, un petit côté latin, quand même, tu ne te laisses pas faire. Révolution.
À la fin, il a gagné quand même. Mais mon boss était espagnol, du coup, le côté latin, il était pas mal non plus.
Il connaissait aussi,
C'est ça, il était plus fort que moi.
Et alors, donc du coup, vous restez combien de temps du coup à Londres au total?
3 ans encore.
D'accord, donc tu restes sur ce job pendant tout ton séjour là-bas?
Non, à un moment, les trajets, j'en ai eu marre des trajets, le boulot allait déménager encore plus loin. Du coup, en gros, je crois que j'avais 40 ou 50 minutes de train. Et après, je devais marcher 15-20 minutes le long d'une route. C'était super sexy. On se retrouvait avec plusieurs. On était à plusieurs, mais à un moment, ils ont décidé de déménager le boulot. Et là, c'était plus faisable à pied, en fait. Et donc là, ça devenait trop compliqué à gérer avec les horaires des bus, les horaires des trains, machin. Mais à un moment, je ne gagnais pas énormément. Et la balance entre les efforts à faire pour y arriver... Plus le fait que le boulot, c'est du service client. Donc, à un moment, t'as fait le tour, tu vois. T'as fait le tour. Les clients ont généralement des questions vachement similaires. C'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Donc, à un moment, t'aimes bien y aller parce que t'aimes bien ton équipe, t'aimes bien ton boss. Mais quand tu dois te taper trop de trajets. Mais ça, c'est une habitude que j'ai. Quand j'étais à Lyon, à un moment, j'ai bossé à Saint-Étienne. Quand on était à Londres, à un moment, j'ai bossé à Luton. Et quand on était ici, depuis qu'on est ici, j'ai aussi été bosser loin. Donc, c'est une de mes passions.
Ouais. Alors, donc, du coup, tu quittes le job et tu trouves quelque chose d'autre ou comment ça se passe?
Non, alors là, j'ai cherché autre chose, mais je n'ai pas trouvé. Et puis, en plus, en parallèle, donc... À ce moment-là, Nico avait changé de job et il y avait déjà la, Il y avait déjà l'idée de venir aux US qui était sur la table.
De par son entreprise, sa nouvelle entreprise ?
Oui, voilà, en fait, même un peu autrement, mais je fais une micro-parenthèse et on revient après là-dessus, si tu veux. Du coup, en fait, il y avait déjà l'idée de partir qui était là et il y avait un côté de moi qui se disait, mais si je cherche du boulot, Enfin, ça sert à rien, je vais rester 4 mois, tu vois. Donc, quel est l'intérêt, en fait, ouais. De chercher. Et puis, au final, tu sais, quand tu prends un boulot, on te demande toujours, ah, tu comptes rester longtemps et de dire oui. Et puis, en fait, tu sais bien que c'est non.
D'accord. Donc, par éthique, tu n'as pas cherché de travailler, finalement, c'est ça?
Je mens extrêmement mal. Je ne me vends pas très bien.
Cette période de latence, à savoir, est-ce que vous allez partir aux États-Unis ou pas, ça a duré combien de temps ?
C'est compliqué. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est la boîte où mon mari a bossé depuis le début. Il y a eu des soucis et je crois que la boîte a plus ou moins fermé. Enfin, ils sont encore en procès, honnêtement. Donc c'est compliqué. Ils sont encore en procès. Mais donc, il a dû retrouver un autre boulot. Et au moment de retrouver un autre job, il a cherché large. Et on s'est dit, est-ce qu'on n'essayerait pas d'aller en Californie ? On a des amis qui y sont. Est-ce que c'est une option, tu vois ? Donc il a commencé à prospecter auprès des grosses entreprises d'informatique qui sont par ici dans la Silicon Valley qu'on connaît toutes. Et donc, il a décroché quelques entretiens. Donc d'abord des entretiens téléphoniques, puis des entretiens techniques, et ensuite il a été invité sur place pour passer des entretiens en plus. Et donc, à la fin, il a eu 3 offres sur la table. Il en a accepté une. Et c'est là que les choses se compliquent, comme tu t'en doutes. C'est qu'une fois que tu as accepté l'offre, y a le problème du visa. Et donc là, ça s'est un peu corsé parce qu'on serait parti sous H1B à l'époque. Et le H1B, donc il y a une loterie. Il y a une loterie parce qu'il y a trop d'applicants. C'est pas le mot, c'est pas le mot appliquant.
Candidature.
Merci. Il y a trop de candidatures. Donc, le H1B, il y a trop de candidatures par rapport au nombre de places disponibles.
Alors, est-ce que tu peux définir le visa H1B ? Parce que je pense que tout le monde ne connaît pas.
Alors, le visa H1B, donc, c'est quand tu viens pour le boulot, que tu as un sponsor. C'est un visa de. Je ne sais plus. On ne l'a pas eu, donc au final, je ne sais même plus te dire. C'est ça qui est vicieux, c'est qu'on ne l'a pas eu. C'était le visa qui était le plus facile à faire pour l'entreprise. Donc, où tu n'as pas besoin d'avoir d'ancienneté dans l'entreprise. Mais après, on ne l'a pas eu. Le H1B, je sais que l'épouse est en H4, qu'elle n'a pas le droit de travailler. Donc, ça, c'est un point négatif du H1B. Mais c'est celui que les entreprises vont le plus facilement pousser, en fait. Donc, je crois qu'il faut. D'accord. Ils doivent quand même prouver que tu es un travailleur qualifié et qu'ils ne pouvaient pas trouver quelqu'un d'équivalent sur le sol américain. Mais je ne le connais pas beaucoup mieux que ça parce qu'on ne l'a jamais eu.
D'accord, ok.
Donc, on a fait la première loterie, donc on ne l'a pas eu. Donc là, Nico, il s'est dit, tant pis, je vais trouver un boulot ailleurs parce que je ne vais pas... Voilà. L'intérêt du H1B, justement, c'est que tu commences à bosser directement aux US. Et donc, comme on ne l'a pas eu, il fallait qu'il trouve autre chose. Donc, il a cherché un autre boulot à Londres, qu'il a trouvé. Et puis, en fait, l'entreprise en question, l'entreprise américaine via laquelle on n'avait pas eu le H1B, lui a dit, au fait, tu sais, on a des bureaux à Londres et en Allemagne. Et du coup, si tu veux, ce que tu peux faire, c'est tu bosses un an depuis Londres ou l'Allemagne, mais on était déjà à Londres, donc l'Allemagne n'avait aucun sens. Tu bosses un an depuis Londres et l'année prochaine, on réessaye le H1B. Donc, parce que ton H1B n'est pas refusé, en fait. C'est juste que tu n'es pas tiré au sort. Donc, ton dossier n'arrive... Enfin, il n'y a jamais personne qui regarde ton dossier. Donc, ce n'est pas comme si, tu sais, quand tu demandes... quand tu demandes un visa ou une carte verte, on te demande toujours est-ce qu'on t'a déjà refusé un visa. Quand tu n'es pas tiré au sort avec le H1B, on ne t'a jamais rien refusé. Ils n'ont jamais juste regardé ta tête. Donc, du coup, l'année d'après, on retente le H1B. Donc, il travaille pendant un an pour cette entreprise américaine depuis Londres. Mais donc en remote, à distance par rapport à son équipe qui était toute à SF. Donc c'était un petit peu compliqué au quotidien. Il était tout seul de son équipe à Londres et voilà. Donc psychologiquement, c'était pas tous les jours facile. Et donc un an après, boum, on retente le H1B et boum, on l'a à nouveau pas de bol. Et là, Bah, et là, on se dit, bon, bah, c'est mort. Enfin, lui, il voulait plus trop faire un an à distance parce que c'était vraiment éprouvant psychologiquement. Mmh. Et là, l'entreprise lui dit, ah, mais écoute, bah, maintenant, en fait, on peut faire un autre type de visa qui est le visa L1. Donc, le visa L1, c'est le visa où tu as une mutation au sein de ta propre entreprise. Donc, en fait, il te mute d'un pays vers les US, du pays où tu es vers les US. Et il faut que tu aies un an d'ancienneté dans cette société pour pouvoir y avoir accès. Mm-hmm. Et donc, comme il avait un an d'ancienneté, bah, hop. Et donc, celui-là, en fait, je pense qu'il me semble qu'il est plus cher pour l'entreprise, que le dossier est plus complet. Mmh. Ils ont plus de choses à prouver, mais il est beaucoup, il n'y a pas de quota. Donc, si ton dossier est bien fait, tu l'as, quoi. Il n'y a pas de suspense.
Et donc, L1, ça veut dire que c'est quoi pour toi?
Alors, pour moi, c'est le L2. J'étais sous L2 à ce moment-là, et le L2 a le droit de travailler. Alors, par contre, un point négatif du L1, c'est que je crois qu'il est pour 3 ans, renouvelable 2 ans, mais tu n'as pas le droit de changer de boulot. Donc, en gros, avec le H1B, tu as le droit de changer de job et il suffit que tu trouves une autre entreprise qui veuille bien re-sponsoriser ton visa. Donc, tu peux changer de job avec le H1B. Avec le L1, tu es pieds et mains liés à ton entreprise et si jamais ton entreprise te vire, t'as un temps totalement ridicule pour retourner dans ton pays, quoi. Mais tu peux même pas, tu peux rien faire, tu rentres chez toi.
D'accord, ah ouais, d'accord, ok.
C'est genre, t'as perdu, t'es le maillon faible, tu sors, quoi. et donc, c'est assez catégorique, du coup, ben, celui-là est un petit peu plus... Ben, il a ses plus, il a ses moins, quoi. Moi, j'ai pu travailler, alors qu'avec l'autre, ben, j'aurais fait du tricot, admettons. Alors, j'en ai fait aussi, remarque, mais c'est une autre question, ça. Mais voilà, c'est le point, c'est vraiment ce point-là qui est intéressant, c'est l'épouse peut travailler. J'ai eu des copines qui étaient sous H4 et c'était épuisant parce que bah là je travaillais pas, mais tu sais que si tu voulais, tu pourrais.
Ouais, c'est ça, je sais plus parler. T'as la liberté de la décision là-dessus, quoi.
Exactement, il n'y a pas les États-Unis qui te disent non.
Donc super, le L1 est accepté, enfin, est validé. Et donc du coup, toi, tu as automatiquement ce L2 ?
Oui, automatiquement, ben, tu prouves juste que tu es mariée. Nous, on était déjà mariés depuis 3 ans. Je pense même qu'on a eu une interview à l'ambassade, mais c'était vraiment simple.
Donc du coup, vous voilà de nouveau dans les cartons. Donc on est en quelle année là ? On est en 2016, c'est ça ?
Oui, on est en 2016. Tu comptes vachement bien.
Ah, je suis pas mal. je m'accroche.
Ah ouais, t'as des notes. Je parie que t'as des notes.
Ouais, je les ai lues en tout cas. octobre 2016, du coup, c'est ça, direction la Californie. Tu connaissais déjà la Californie ?
Ouais, je connaissais la Californie. Alors, j'étais venue en vacances quand j'avais 17 ans. Donc, c'était il y a un moment. Et on est venu à San Francisco où je me rappelais que malgré que c'était l'été, tu te les gelais. Bien comme il faut. Il y a des moments où tu avais très chaud, puis 10 minutes après, tu avais envie d'avoir une doudoune, quoi. Et donc ça, je me rappelais que j'avais vraiment bien aimé la ville. Et au moment où on en discutait de manière théorique pour voir si c'était une option qu'on considérait, on avait fait un road trip, hein, le circuit classique, tu sais, Californie, les parcs nationaux, le Grand Canyon, tout ça. On avait fait ce circuit classique parce que mon mari connaissait pas. Et donc, pour voir s'il s'y voyait, en fait.
Ouais.
Donc, ça avait été validé. On avait validé ça dans nos têtes. Donc, ça, c'était bon. Mais par contre, bah ouais, ça a pas mal changé entre temps. Parce que quand moi, j'étais venue en 2000, il n'y avait pas le côté tech autant qu'aujourd'hui. Ouais. Donc, c'était un peu une autre ville. C'était un autre esprit. Ouais. Et donc voilà, mais sinon, bah, on était revenus en 2014, je crois, en vacances, et ça nous avait bien plu, donc on savait un peu à quoi s'attendre.
Ouais.
Ouais, on savait un petit peu où on allait, un petit peu.
D'accord. Bon, et alors, comment est-ce que ça se passe l'arrivée ? D'abord, parce que là, aujourd'hui, tu nous parles depuis Berkeley, et Nico, lui, il bosse dans la Silicon Valley ou il bosse dans San Francisco ?
Il bosse dans San Francisco, Nico, ouais, depuis le début où on est arrivé, il bosse à San Francisco, il bosse dans le centre. La première année, donc, on est arrivé, on était en Airbnb, On a cherché un appart assez vite et un chien. Les deux en même temps, écoute.
un appart et un chien. J'aime bien de mettre des bâtons dans les roues pour trouver des apparts, toi.
Ouais, bah écoute, non, j'avais fait des recherches depuis l'Angleterre et du coup, c'était... Ben, tu sais, quand t'as pas de crédit score en plus, tu mets des bâtons dans les roues tout seul. T'as pas de crédit score, c'est limite. Enfin, déjà, ouvrir un compte, avoir une carte de crédit, je crois qu'on s'est fait jeter d'une banque au début parce que bah, t'as rien du tout. Donc, voilà. Alors,
le crédit score pour les non-familiers avec les US ou l'Amérique du Nord, comment est-ce qu'on pourrait définir ça? En gros, c'est un score qui est attribué à chaque personne qui a un numéro de sécurité sociale, en fait.
Ouais.
Qui
évalue tes qualités d'employeur,
ta capacité à rembourser tes dettes.
C'est ça. Qui te donne un, ouais, qui évalue tes capacités de bon payeur entre guillemets.
Oui, c'est ça, voilà, parce que ça va être autant la facture de téléphone que la carte de crédit.
C'est ça.
Ou le prêt. Et donc c'est avoir payé à temps et puis de pas être trop endetté.
Ouais,
et,
de c'est toujours rembourser à l'heure, quoi.
Voilà, c'est ça. Et aux États-Unis, alors j'imagine que c'est pareil au Canada, je sais que le système existe aussi, c'est très difficile quand on arrive en fait en tant qu'étranger parce que du coup, on n'a pas de crédit score et on n'a pas l'historique qui va avec.
C'est
ce qui fait que dans les algorithmes locaux ici, on ne rentre pas dedans puisqu'en fait, on est un peu considéré comme un adolescent qui vient d'avoir sa première carte, quoi, parce que personne ne veut nous vendre de voiture à crédit.
C'est ça.
C'est très, très difficile. Et donc, et notamment, donc, comme tu dis, la recherche d'appartement peut être compliquée, surtout sur un marché compétitif, j'imagine, comme San Francisco.
Ben, c'est ça. C'est aussi le côté où si tu veux louer à des particuliers, ben, en fait, eux, ils veulent vraiment que tu aies un crédit score. En fait.
Ouais, c'est leur seule garantie.
C'est ça. Le particulier, il s'en fout que tu lui prouves ce que tu veux. Il veut juste que quand tu fasses ton dossier, que cette case-là, elle ressorte verte pour lui. Et donc, on n'a même pas essayé, en fait. On n'a même pas essayé. On a directement fait des recherches pour des buildings, en fait, des buildings relativement récents où il y avait des apparts qui étaient dog friendly, donc qui acceptaient les chiens, parce que chacun a ses critères, écoute.
Tout à fait.
c'était le nôtre, hein, depuis le temps que je voulais chien. Et donc on en avait repéré plusieurs. Donc on en a visité plusieurs en fonction des prix, en fonction de ci et ça, et puis on a signé chez un. Et en fait la différence par rapport à l'Europe, c'est plutôt qu'en Europe, tu as toujours une caution qui est équivalent à, je sais pas, un mois ou deux de loyer en fonction du pays. En Belgique, je crois que c'était pas mal. C'était peut-être deux, trois mois de loyer, je sais plus. Tu devais bloquer ça. Et ici, en fait, quand tu loues chez un particulier, tu n'as pas ça, mais tu as le crédit score. Donc, tu n'as pas la même caution. Et dans le building où on est allé, justement, le building, lui, avait une manière de procéder qui était, si tu n'as pas de crédit score, la caution, elle monte. Je ne sais plus parler. Si tu n'as pas de crédit score, la caution monte, en fait. Donc, on avait une caution qui était énorme. Mais au moins, bah, eux voulaient bien nous louer quelque chose, même si on n'avait pas de crédit score. Donc, ils avaient une garantie, mais c'est vrai que je n'avais pas l'impression que dans le secteur particulier, c'était comme ça. Et la plupart des expats que je connais, bah, ils étaient un peu dans les mêmes rouages que nous, quoi. Ils étaient dans les mêmes... buildings, dans les mêmes sociétés, et là c'était mon estomac. Donc les autres expats, ils étaient dans les mêmes buildings et dans les mêmes conditions que nous, parce que ben, quand t'arrives et que t'as pas de crédit score, ben, tu finis là-bas, mais tu payes cher, t'as pas mal de charges, mais bon.
Ouais. Et est-ce que justement l'entreprise de Nico qui vous a relocalisé donc à San Francisco vous a accompagné un petit peu là-dessus, sur la recherche de logement?
Non, parce que je crois qu'on avait le choix entre deux possibilités. Soit on avait, je te jure, je ne suis plus certaine de ce que j'avance, hein, mais il me semble qu'on avait le choix entre que eux nous aident à trouver un logement temporaire, etc., ou que eux nous donnent l'argent et qu'on se débrouille. En fait, on préférait la deuxième version et se débrouiller plutôt qu'être assisté, alors qu'on avait l'impression qu'on pouvait bien gérer tout seul et qu'on savait ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas. Donc on a préféré gérer nous-mêmes, en fait.
Ok, super.
Donc, voilà.
Bon, et alors, le début de la vie aux États-Unis, puisque c'est une chose de venir en vacances, c'en est une autre de vivre aux États-Unis. Comment ça s'est passé ? Est-ce que ça a correspondu à vos attentes ? Les premiers mois, ça ressemble à quoi en termes d'acclimatation locale, je dirais ?
Alors, les premiers mois, ça ressemble à quoi ? Eh bien, moi, j'étais un peu dans un tunnel parce que c'était mes premiers mois avec un chien qui était un puppy, donc un chiot, et qui demandait beaucoup, beaucoup d'attention et beaucoup, beaucoup de choses. Mais du coup, c'était un puppy dans San Francisco. Donc, en fait, moi, il y a tout le monde qui me parlait dans la rue. Ça n'arrêtait pas pour me dire que mon chien était beau, pour me dire est-ce que je peux caresser
quelqu'un. C'est vrai que les Américains adorent les animaux.
Voilà. Du coup, moi, j'avais... je ne vais pas dire que j'avais une vie sociale chargée parce que quand je croisais les gens sans mon chien, ils ne me reconnaissaient pas. Mais quand ils me croisaient avec mon chien, ils criaient le nom du chien dans la rue. Donc, il y a des fois, je leur souriais une demi-heure après, mais ils ne me calculaient pas, quoi. C'était genre, c'est qui ? Et une demi-heure avant, bah, ils me demandaient, il a quel âge ? Comment il s'appelle ? Enfin bref, c'était assez fou. C'est là que tu t'aperçois que ouais, t'es un peu transparent et que tout le monde n'en veut qu'à ton chiot. Donc il y avait ce côté-là, puis ben t'as le côté la nourriture était chère, ça a été, mais ça on le savait que pour bien manger tu devais payer cher, hein, comme la brioche du Whole Foods dont on a parlé avant. Donc ça c'était, d'ailleurs on habitait au-dessus d'un Whole Foods, je te dis pas, c'était horrible. Ah la poupe, c'était terrible. Enfin dès que t'as envie d'un truc, c'est là en bas quoi.
C'est ça, et Whole Foods, donc à nouveau pour les gens qui connaissent pas forcément, c'est une chaîne de magasins de supermarché aux États-Unis qui est absolument fantastique, tout est bio, qui est très très...
Ils n'ont pas de coca d'ailleurs.
Très, très 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 haute qualité. Comment ?
Ils n'ont pas de coca d'ailleurs.
Ouais, c'est ça, même je me souviens que les éponges et tout, ça va vraiment dans le fond des choses.
Ouais.
Et donc c'est très très haute qualité, mais qui coûte une fortune. Donc Caroline habitait au-dessus, ben voilà.
Non mais c'était un piège, hein, il y avait rien à dire, c'était un piège.
Ouais.
C'était un piège. Mais par contre, il y en avait à Londres aussi. Comme en Europe, bah, tu as quand même plus de facilité à trouver de la nourriture, des légumes, des fruits et légumes de bonne qualité. C'était vraiment le luxe, c'était exceptionnel. On se débrouillait avec les supermarchés classiques. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'ici, ben parfois, quand tu vas au Target, donc qui est une autre chaîne de supermarché, quand tu vas au Target, parfois les légumes, ben, t'en as pas envie, quoi.
Ah oui, non, c'est clair. Ben,
les légumes du Target ou du Walmart. Et du coup, ouais, le prix de la nourriture, enfin, je sais que mes parents, quand ils sont venus, le prix de la bouffe, mais ou le prix des restos, c'était dur. Les premiers mois, ben, on était toujours à calculer le pourboire qu'il fallait laisser, parce qu'en Angleterre, il y avait un pourboire à laisser aussi de la même manière qu'ici, mais pas les mêmes pourcentages.
Donc, ce à quoi tu es habitué.
C'est ça. Du coup, on a dû réapprendre à calculer autrement. Je crois qu'en Angleterre, c'était peut-être 12 et ici, c'est plutôt 18-20.
Ouais,
donc voilà, les premiers mois, ben, ouais, on allait à du puppy training. On a rencontré, il y avait un collègue de mon mari, ben, qui est venu à San Francisco aussi pour bosser dans une autre entreprise, donc on les avait rencontrés aussi. Donc on était tous les deux, on venait tous les quatre, pardon, de Londres, donc il y avait un côté où on comparait. Je pense qu'en fait, en étant passé par Londres, le décalage a été, ouais. On a vraiment eu une étape entre les deux, ouais. On a eu une étape entre les deux. Donc, on était habitués à l'anglais. Alors, ce qui est comique, c'est que quand on est arrivé à Londres, on se croyait bon en anglais. En fait, on était surtout bon en anglais américain. Donc, ouais. Et je te dis pas, quand on est allé en Écosse, à quel point ça a été encore pire.
Et oh, ouais. Bon, moi, je ne comprenais rien. Même mon mari, qui est américain, ne comprenait rien en Écosse.
Ah, tu comprends rien. Et quand on est arrivé ici, ben c'était fluide. En Angleterre, ben après 3 ans, on était fluide aussi. Mais c'est vrai que ben à force d'entendre les films, la télé, les séries, c'était vraiment en anglais américain qu'on était le plus à l'aise.
Ouais.
Donc il y avait ça. Des trucs cons où moi je me sens vraiment bien autant ici qu'en Angleterre, c'était ce côté où quand on est dans un supermarché, la musique qui passe, ben c'est de la musique que moi je vais écouter en continu depuis des années, alors que quand on était en Europe et que je disais que j'écoutais tel groupe, t'as tout le monde qui me regardait, genre, mais c'est qui ?
C'est vrai ?
Et du coup, il y avait ce côté où du coup, je me sens un peu plus en phase parfois, mais je sais pas. Non, je crois qu'on s'est senti vraiment bien assez vite. Après, ben, t'as les 9 heures de décalage avec la maison qui sont un peu compliquées. C'est plus compliqué pour appeler tes proches. Donc là, on s'appelle le matin. Pour eux, c'est le soir, pour nous, c'est le matin.
Toi, tu es à 9h de décalage, c'est ça, avec,
Ouais, on est à 9h de décalage. Donc, c'est un peu... Et puis aussi, quand on était en Angleterre, ben, tu avais ce côté où tu pouvais sauter dans un Eurostar et t'étais à Bruxelles en 2 heures. Ouais. Ici, tu peux pas.
Ouais, t'as beaucoup moins de spontanéité pour rentrer, quoi.
C'est ça, et puis t'as un rein aussi, du coup, ça... Ouais. Enfin, en Angleterre, on était partis tous les week-ends, que ce soit en Europe, on allait passer des week-ends à Lisbonne, des week-ends à... On est allé à Stockholm, on est allé à Lisbonne, on est allé en Italie, on a bougé vraiment beaucoup quand on était à Londres. Mmh. On rentrait au moins une fois par mois dans nos familles respectives, donc une fois par mois à Lyon, puis une fois par mois à Bruxelles. Donc EasyJet et Eurostar ont gagné beaucoup de thunes grâce à nous. Mais c'est vrai que depuis qu'on est ici, c'est une fois par an qu'on rentre. Voilà, c'est pas le même rythme.
Et alors, quand on préparait là, cet épisode, il y a une anecdote que tu as partagée que j'ai trouvée. Je me suis d'ailleurs beaucoup reconnue en fait dans cette anecdote. Quand on te demande « Where are you from ?» D'où est-ce que tu viens ?
Comment ça se passe ?
Ben, en fait, tu sais même pas répondre parce que déjà, tu as l'impression quand ils te demandent ça, ils te prennent pour un touriste et toi, tu as envie de monter sur tes grands chevaux en disant « Mais non, j'habite là, tu vois !» Et tu as aussi envie de lui dire « Sérieusement, mon accent, après tout ce temps, tu l'entends encore ?» Donc voilà, tu pleures un peu à l'intérieur déjà. Et non, c'est super dur parce que j'ai plus vécu en Belgique depuis 10 ans. Donc pour moi c'est, je viens toujours de là. Mais la question qui est vache, c'est « Where is home ?» Où est la maison, tu vois ? Et la maison, elle est ici. Donc, quand on bouge en Californie ou qu'on va, je sais pas, on est allé en Oregon il y a quelques mois, bah, quand on te demande d'où tu viens, on leur dit Berkeley. Alors là, ils te regardent en te disant, mais non, mais j'ai bien entendu ton accent, tu vois, tu viens d'où avant. C'est super chaud parce que bah, tu te sens quand même légitime de dire que tu viens d'ici parce que c'est ici que tu vis. C'est super traître comme question. Elle a l'air simple comme ça, where are you from? Et en vrai, c'est on répond jamais par une phrase simple, quoi. On dit ah ben on vit là, mais en fait on vient de là. Et quand tu parles français, ben moi ils partent toujours du principe que je suis française quand ils entendent que c'est français. Et du coup là pareil, je monte sur mon petit cheval en disant hey, je viens de Belgique. Donc t'as ce côté là où tu rames en fait. Ouais. Tu rames bien. Et alors, quand ils n'identifient pas ton accent, tu ne sais jamais si c'est un compliment ou pas aussi. On m'a déjà dit Pays de l'Est. On m'a déjà dit Portugal ou Espagne. On m'a déjà dit, je ne sais pas. On m'a déjà dit Allemagne. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Ouais, je ne sais pas si c'est un compliment ou pas. Je ne sais pas.
Ouais. C'est vrai qu'on en a fait pas mal aussi. Ouais. Maintenant, puis alors généralement, c'est la question d'après, c'est alors du coup, vous êtes là depuis combien de temps ?
Oui, c'est ça.
Généralement, je leur dis 10 ans, puis je vois que, puis je marque une pause, et puis on me dit, je leur explique en fait, c'est l'accent ne partira pas quoi. Enfin, c'est pas la peine de parce que je les vois de faire des calculs, genre ah, putain, elle a toujours son accent français quand même.
Mais tu peux prendre des cours, hein, je crois, il me semble. Je crois que c'est Arnold Schwarzenegger qui avait pris des cours pour. Il me semble que c'est pas pour effacer son accent parce qu'il voulait quand même garder son identité, mais il a voulu prendre un accent qui était un peu plus compréhensible. Et tu peux prendre des cours pour ton accent. Mais bon, lui, il est devenu gouverneur. C'est peut-être pas notre objectif.
Notre objectif,
c'est ça. Lui, je pense qu'il l'a fait dans ce cadre-là. Et peut-être aussi pour le cinéma, ce qui n'est pas non plus mon objectif. Donc voilà.
J'avais une question pour toi. Donc du coup, vous êtes du coup à San Francisco.
Ouais, depuis... dans la zone de San Francisco depuis 2016.
Ouais, donc fin 2016, donc depuis presque 23 ans et demi, quoi.
Ouais.
Vous avez donc une petite fille qui est née il y a un peu plus d'un an, presque un an et demi déjà. Enfin, ça passe vite.
Tu me suis pas loin, donc c'est bien posé, c'est pareil là.
C'est ça, non, mais c'est ça.
Ça fait mal.
C'est... Ouais, enfin, en tout cas, ça... ouais, on se dit que le temps passe sacrément vite quand même. je voulais te demander justement, parce que du coup, donc, tu es belge, oui. Nico est français, vous êtes aux États-Unis et donc elle est née aux États-Unis. Mm-hmm. J'allais dire, quelle identité est-ce que votre petite a enfin, tu vois, l'identité culturelle, etc. Comment est-ce que toutes vos racines culturelles se mélangent à la maison et comment est-ce que vous faites en sorte justement que chaque
origines, si je puis dire, coexistent avec l'autre?
Ah, c'est une question compliquée. Donc, déjà, elle a les trois nationalités. Donc, ça, c'est, ça a été acquis tout de suite. On est toujours en train de faire la française, mais la belge a été super rapide. Ça s'est fait par email, j'ai trouvé ça merveilleux. Mais elle a les trois nationalités, donc ça, c'est top. À la maison, on parle que français. Du coup, ça se tient, hein, on est francophones tous les deux. On va pas parler anglais pour le fun et faire des fautes devant elle. Donc, je pense qu'on lui transmet tous les deux notre culture à nous. Alors, elle se mixe beaucoup parce que depuis le temps, on a vraiment mélangé pas mal nos cultures. Je sais pas où est la limite de l'une et où commence l'une et où finit l'autre.
Bien sûr.
Genre, Nico, quand il me parle parfois, il dit 70 et il dit 90, parce que s'il me dit que t'as un numéro de téléphone en me disant 70, moi j'écris 60 et 10. Donc c'est, voilà. Mais je pense qu'on mixe ça plutôt pas mal. Chacun va utiliser un peu ses expressions, chacun garde un peu des réflexes de quand on était petit ou des choses comme ça. Ben, par exemple, en Belgique, on fête plutôt la Saint-Nicolas. Que Noël, et à mon avis, on fêtera les deux quoi, avec elle. Donc, on fêtera Noël et Saint-Nicolas le 6 décembre. Donc, voilà. Je pense qu'on va essayer de garder tout ça. Ce qu'on se dit, c'est qu'on n'a pas arrêté de lire des trucs sur la langue et tous ces trucs-là par rapport à l'affaire bilingue, à faire qu'elle soit bilingue. Ce qu'on a vu, c'est que ce qui te conseille le plus, c'est de parler dans ta langue native, dans ta langue maternelle. Donc, ce qui te conseille le plus, c'est de rester dans ta langue maternelle. Ce qui est logique, parce que si tu parles dans la langue qui n'est pas la tienne, ben, tu fais des fautes. T'apprends tes fautes à ton enfant. Et je me dis que quand elle ira à l'école ou à la crèche, elle sera en immersion anglophone. Donc, il faut qu'on garde le français à la maison. Mm-hmm. On lui fera manger des gaufres quand elle sera en âge. Ben aujourd'hui, où on enregistre, c'est la Chandeleur. Elle a mangé ses premières crêpes. Donc, tu vois, on s'attache à nos petites traditions, parce qu'on fait de la Chandeleur en Belgique aussi. Ouais, on fait nos petites traditions. On essaye de garder ce qu'on aime bien de nos cultures et de lui insuffler ça. On lit principalement en français, mais on lui lit parfois en anglais aussi. Genre, j'ai un bouquin en anglais, ben il y a des rimes. Si je le traduis en temps réel, les rimes, je ne les fais pas. Enfin, je ne suis pas magicienne. Et en anglais, il est hyper musical dans la manière dont il est écrit. Et c'est un gâchis de le traduire. C'est les girafes ne savent pas danser. Je ne sais pas si tu l'as. Mais... Et du coup, je pense que pour l'instant, on focalise vraiment sur le français parce qu'on a vu, on a des amis qui ont des enfants ici. Et une fois qu'ils ont commencé l'école, ils switchent tellement sur l'anglais que le français devient presque une lutte, j'ai l'impression. Parce que l'enfant, en fait, tu lui parles en français, il te répond en anglais. Donc ça, c'est ce qu'on a constaté chez des amis. Et du coup, on essaye de focaliser sur le français. Et puis on verra. Mais c'est comique, c'était une inquiétude de nos familles par moment. C'était, mais vous lui parlez en quelle langue? Est-ce qu'elle va nous comprendre? Donc ça, c'était comique. On était là, tu sais, à la maison, on parle français. Hein, on ne va pas parler en anglais juste tous les deux pour le fun. On pourrait, mais parfois, on a ce petit côté... où tu sais, à force d'être, de lire ou de faire des trucs en anglais, où les mots en français ne viennent plus. Donc, on a un petit côté Jean-Claude Van Damme.
On l'a tous. Tous dans la langue, en fait, du pays d'expatriation.
Mais c'est ça.
Il y a des moments où, notamment en anglais, moi, je sais que c'est toujours un truc qui m'a frappée, c'est ils ont un mot pour tout, un peu, je trouve, en anglais.
Oui.
Et donc, on peut exprimer... trois phrases en un mot, en fait. C'est un truc qui nous prendrait trois phrases à expliquer en français.
C'est ça, il y a énormément de nuances.
C'est difficile, cette gymnastique, de revenir des fois en français.
C'est ça.
De dire, mais en fait, pourquoi on se prend la tête à mettre autant de mots alors qu'on pourrait...
C'est ça.
Bon, bref, c'est...
Il y a énormément de nuances dans la langue anglaise, l'air de rien. Et du coup, il y a des fois où ton idée, elle est parfaitement résumée en un mot. Et du coup, tu te retrouves à faire une phrase en français avec un mot en anglais. Ou alors, je ne sais pas si tu as ça aussi, mais faire de la traduction littérale de l'anglais au français quand tu parles à ta famille, mais ça, c'est un truc...
Ça ne veut rien dire.
Mais ça ne veut rien dire. Alors, ils se demandent ce que tu essayes de faire. Et du coup, j'ai souvent on se moquait vraiment beaucoup du pauvre Jean-Claude à l'époque, mais au final, maintenant, avec le recul, le pauvre, je le comprends, quoi. Donc, voilà.
Ah oui, non, mais c'est clair. C'est clair.
Mais alors, qu'est-ce qu'on se moquait de lui, quoi. Après, il avait d'autres, faiblesses. Hein. Mais bon, voilà. Je sais pas si tu as déjà vu cette vidéo où il parle de manger des pommes, mais si je te l'enverrai. C'est un autre problème et c'est une autre histoire, mais c'était magique.
Je l'ajouterai aux notes du podcast avec plaisir.
Écoute, je t'enverrai le lien. Mais voilà, c'était magique au niveau du bilinguisme. C'était, voilà. C'était de l'anthologie.
Très bien. Donc, vous êtes arrivés sur L1, L2.
Oui.
Vous avez pu bosser tous les deux.
Oui.
Et puis, tu m'as dit que là, depuis presque un an, du coup, vous êtes sur Green Card. Comment ça s'est passé, la conversion?
La conversion, elle s'est passée de manière vachement simple, vachement fluide. Ouais. Contrairement à d'autres, à des amis qui ont eu des merdes l'une sur l'autre, et j'essayais de trouver un mot qui n'est pas merde. Donc, contrairement à des amis qui ont eu plein de soucis dans leur demande de green card par rapport à des avocats qui oubliaient des trucs ou autres, nous, toutes les étapes se sont passées super bien. Alors, depuis qu'on a le président actuel, il a compliqué quelques étapes, donc ça prend plus longtemps. Mais en gros, dès qu'on est arrivé avec nos visas, je crois qu'un mois ou deux après, on lançait déjà le dossier pour la green card.
Ah ouais, d'accord.
Donc, okay. après
avec l'aide de l'entreprise de Nico, ou...
C'est ça. C'était sponsorisé par l'entreprise de Nico. Et du coup, on avait des échanges avec les avocats à chaque étape, quand il fallait remplir les dossiers, les machins, les trucs. Mais ils ont vraiment été, tant l'entreprise que les avocats étaient super pros. Et du coup, ça a vraiment été super fluide, super, je vais pas dire super simple, parce que quand tu remplis ce dossier, c'est pas très simple, parce qu'ils te font remonter toutes les adresses que tu as pu avoir sur les 5 dernières années. On en avait une flopée, alors je te dis pas.
C'est les allers-retours, tu sais, toutes les fois où tu es sortie du pays.
C'est ça.
Moi, il a fallu reprendre tous les billets d'avion.
Ah, mais c'est ça, ou toutes tes adresses. Et nous, on avait été à Lyon, on avait été par-ci, on avait été par-là. Les pays que tu avais visités, on avait bougé beaucoup les derniers mois quand on était en Europe. Ah, du coup, ouais, c'était long, mais écoute, c'était fastidieux. Mais à part ça, je veux dire, on n'a vraiment eu aucun... on n'a jamais eu même l'interview en tant que telle après... Quand tu dois prouver que tu es mariée et que tu arrives avec une poussette, j'ai envie de dire que ça facilite cette partie-là de l'entretien. On était mariés depuis 5 ou 6 ans en plus, donc voilà, c'est plus simple. Et puis, tu as le bébé, donc ça aide. Mais non, franchement, on n'a pas eu l'impression d'être, tu sais, comme quand tu es chez les flics avec la lampe dans la figure et tout ça. On n'a vraiment jamais eu le sentiment d'être illégitime ou autre, ouais. c'est vraiment passé, je vais pas dire facilement parce que c'est jamais facile, mais ça s'est passé, voilà, ça a été simple. Et le truc le plus chouette de la green card, c'est que quand on est revenu d'Europe au mois d'août ou de septembre, c'était de voir cette file qui sortait. Mais tu sais, t'as l'endroit où t'as la file pour la douane, et la file était tellement longue, je pense qu'il y avait un A380 qui venait d'arriver de quelque part, et la file en fait débordait dans le couloir du terminal. C'était un truc phénoménal, et pour la première fois on a eu le droit de passer du côté résident et citoyen. Et je te jure que ça a été c'était top, quoi. C'était top.
Alors donc du coup, t'as pu donc avant même cette green card, t'avais donc ton autorisation de travailler. Qu'est-ce que t'as fait justement, toi qui es arrivé dans la Silicon Valley, le cœur de la tech mondiale. Qu'est-ce que t'as fait?
Du coup, au tout début, j'étais dog mom, donc j'étais la maman du chien au tout début, donc je faisais que ça. Et puis à un moment, j'en ai eu marre de tourner en rond autour de notre quartier, pas dans la maison, mais autour de notre quartier, j'en ai eu un peu marre. Donc je me suis dit que j'allais chercher du boulot. Et le truc, c'est que ce qui s'est passé, c'est que c'est pas moi qui ai cherché du boulot finalement, mais c'est le boulot qui m'a trouvé. Donc j'ai été contactée par une recruteuse sur LinkedIn. Et en fait, c'était pour un boulot de contracteur. Donc c'est un boulot de, c'est une entreprise comme une c'est comme de l'intérim entre guillemets, ou du consulting si tu veux. C'est en gros, tu bosses pour une grosse boîte, mais c'est pas la grosse boîte qui te paye ou qui t'emploie. Et du coup, c'était pour un géant de la Silicon Valley. Du coup, j'avais beaucoup de trajets, mais c'était une expérience phénoménale, quoi.
Ok, génial.
Donc j'ai bien mangé. fait plein de copains. Enfin, c'était vraiment une ambiance de travail vraiment super. Donc, c'était encore une fois sur Twitter et tout ça. Et par contre, ici, il y avait de l'anglais. C'était pas que francophone. Donc, ça, c'était chouette. J'ai pu bosser en anglais aussi. Et donc, voilà, c'était vraiment top. Mais bon, après, j'ai quitté à cause de la distance parce que là, j'en avais pour 4h30 de commute par jour.
Oh, c'est pas vrai.
De Berkeley, j'avais 4h30 de commute. Alors, j'étais dans le shuttle de l'entreprise, donc c'était un peu... c'était un trajet vachement confort, mais le truc, c'est que 4h30, même dans un bus tout confort avec le Wi-Fi, bah, c'est 4h30 où t'es sur la route.
Partie de la journée. Et alors justement, je voulais aussi revenir un petit peu là-dessus. On en avait discuté il y a quelques semaines de cette ambiance en fait. Comment est-ce que les habitants de la baie de San Francisco vivent avec les gens qui travaillent dans la Silicon Valley pour ces géants de la tech?
Je crois que c'est une relation pas forcément au beau fixe tous les jours. Parce qu'en fait, à cause des gens de la tech qui ont des salaires importants, bah les gens normaux, ils ne suivent pas. Donc, les loyers sont exorbitants. Si tu as un job d'institut, je ne sais pas comment tu payes ton loyer. Enfin, les gens sont en coloc jusque super, super tard dans leur vie. C'est assez compliqué. Je sais qu'il y a des bus de mon entreprise qui avaient été visés par des pistolets à billes, qui avaient été visés par des pistolets à billes parce qu'en fait, les gens normaux vont prendre les transports en commun et puis t'as l'élite, entre guillemets, qui a des bus avec Wi-Fi, avec clim et qui prennent les voies de... Tu sais, les voies sur l'autoroute qui vont plus vite, là, parce qu'on est nombreux. Voilà, les voies de carpool, ouais. Merci. Et du coup, t'as ce côté où je crois que les natifs de SF, de Berkeley, ils ont ce côté où bah, t'es décalé en fait, tu es décalé, c'est toi qui fais monter les prix, c'est toi qui transforme leur ville en fait, parce que bah, même ici à Berkeley, on voit qu'il y a plein de petits magasins qui ferment et qui sont repris par les locaux sont repris par des chaînes parce que les petits magasins, bah, les petites boutiques, les petits commerçants peuvent plus suivre en fait avec les loyers qui montent. Tu vas avoir Starbucks, tu vas avoir Pete's Coffee, tu vas avoir des trucs comme ça, mais les petits ils suivent plus quoi. Ouais. Et c'est ça qui est la gentrification comme ils disent. Ben c'est ouais, à SF c'est comme ça aussi. Donc t'as cette cohabitation avec il y a énormément de SDF que ce soit à San Francisco ou à Berkeley. Et tu sais que quelque part c'est pas ta faute directement, mais c'est un système auquel tu participes, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Et tu y participes, et voilà. Et du coup, bah, même dans les rues ou tout ça, tu vas voir... S'il y a des gens qui habitent là depuis 40 ans avec les loyers qui sont bloqués, ils vont payer, je sais pas moi, peut-être 5 fois moins de loyer que toi, tu payes. Et donc, il y a une différence de niveau de vie aussi, parce que du coup, ils ne peuvent pas mettre la même thune dans les courses. Ils n'ont pas le même pouvoir d'achat. Donc, socialement, tu sens que c'est compliqué. Et tu les comprends. Oui, c'est inégal. C'est inégal, un truc de fou, en fait. C'est inégal, un truc de fou. C'est tant Berkeley que San Francisco, en fait, ont énormément de SDF. Je sais que... Il me semble avoir lu que la politique de Berkeley est très tolérante envers les SDF et je vais pas dire qu'il les accueille à bras ouverts, mais il les accepte beaucoup et je sais que les communes, enfin les villes à côté, en fait, les leur donnent parfois de l'argent pour qu'ils viennent ici. Donc c'est un petit peu tendu, mais c'est extrêmement triste en fait.
On s'attend pas à toutes ces choses-là. On entend parler de Google, Amazon n'est pas là-bas, mais Facebook, tous les autres.
Amazon est là-bas aussi, si, Amazon est là-bas aussi.
Ouais, non, enfin bon, c'est pas forcément son siège, mais ouais, enfin bref, on s'attend pas quoi à ça. Enfin, en tout cas, c'est pas de ça qu'on parle généralement.
D'ailleurs, quand t'es sur le campus de Google, parce que c'est là que j'étais, le campus de Google, c'est une ville à part entière et une ville qui est parfaitement lisse. Déjà que t'as que des employés Google qui sont sur place. T'as la nourriture qui est gratuite partout, c'est...
Les vélos.
C'est ça, et c'est une ville à part entière, mais tu sais que derrière, en fait, qu'autour, il y a des vrais gens, mais tu es dans une bulle, en fait. Et c'est ça que je pense, les natifs et les gens qui vivent à SF et les gens qui ont une vie normale ici n'aiment pas, c'est qu'en fait, bah, par exemple, un employé d'une de ces grosses boîtes, le matin, il se lève, il va à l'arrêt de son bus, il monte dans son shuttle où il est juste avec des employés de la même boîte que lui. Mmh. Tout le monde travaille de manière silencieuse, religieusement, avec du Wi-Fi fourni qui est rapide. Tu arrives sur le campus de ton entreprise où tu es, bah, où tu as tout gratuit, où tu es un peu, voilà, tu bosses, tu fais ta vie. Le soir, tu prends ton bus, mais finalement, tu ne vis pas dans la vraie vie. C'est assez bizarre et je crois que c'est...
Mais en fait, ce n'est pas facile même de se mêler finalement aux locaux, quoi, de rencontrer les locaux. Et de...
C'est ça. Et en plus, tu ne fais pas vivre les commerces locaux.
Mmh, ouais.
Vu que tu manges et tu bois sur ton campus, tu ne fais pas vivre les commerces locaux. Du coup, c'est ça aussi qui est un peu...
Pas.
c'est vraiment bizarre comme sentiment, en fait. C'est très étrange.
Ouais. Non, c'est intéressant. Écoute, Caroline, donc du coup... Tu as donc vécu 3 expatriations, tu es à fond dans ta 3e. La carte verte, du coup, c'est la résidence permanente. Vous voyez, vous rentrez en Europe ?
On ne sait pas.
Ouais.
On ne sait pas. C'est une question terriblement dure, en fait. On ne sait pas. Ben, on est comme tout le monde, en fait. Tu as la famille qui nous manque, mais on s'est habitué à certains trucs tout cons de la vie d'ici. Et on n'est plus habitué à parfois la manière de vivre en Europe. Du coup, quand on rentre, on a un choc culturel inversé. Mmh. Donc, c'est un peu, je sais pas, oh, les gens, ils nous sourient pas. Tu vas au magasin, t'as vu, la caissière, elle nous a même pas demandé comment on allait. Les trucs tout cons. Les trucs tout cons,
mais mis mes courses dans le sac pour moi.
C'est ça, voilà. Mais la famille, non, les courses dans le sac, ça, j'ai toujours du mal. Parce qu'ils organisent pas comme moi. Du coup. Mais ouais, la famille, par contre, elle nous manque un truc de fou. Et évidemment, bah, on a peur parce qu'on on rajeunit pas. Et malheureusement, eux non plus. Mmh. Donc ça, évidemment, ça, c'est un truc qu'on garde en tête et qui nous fait peur. Mais après, le truc, c'est qu'on se voit bien ici. On vit bien ici. Mais d'un autre côté, on sait que avec un enfant qui grandit, y a des choses qui vont devenir atrocement chères, ne fût-ce que si elle veut aller à l'université ici. Donc voilà. Donc il y a tout. C'est vraiment très, très compliqué dans nos têtes. Ouais. Si on rentrait en Europe, je pense qu'on essayerait de rentrer peut-être dans un pays qui soit pas francophone.
Ouais.
Mais on sait pas trop. Enfin, Londres, ça devient un peu tendu. On aurait bien voulu retourner à Londres, mais je sais pas comment ça va être. Donc ça, on verra comment ça évolue. Mais ouais, on ne sait pas en fait. Et c'est une question qui revient souvent dans nos familles parce qu'eux aimeraient bien qu'on revienne évidemment. Mmh. Ils aimeraient bien voir leurs petites filles plus souvent, les grands-parents et les oncles et les tantes et tout ça.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est une question qui est très, c'est très compliqué parce qu'on se sent vraiment bien ici et qu'on s'est habitué. Enfin, j'avais un coup de fil avec ma sœur hier et elle me parlait d'aller chez IKEA et je lui disais, ah, mais t'as qu'à y aller demain, tu vois, hier. Et je lui disais, t'as qu'à y aller demain. Elle me dit, c'est dimanche, c'est fermé. Et j'étais, ah, ok. Et ouais. C'est des trucs tout bêtes, mais qui sont devenus des évidences, en fait, pour moi. C'est ouvert, tu vois. C'est ouvert le dimanche, c'est ouvert tout le temps, d'ailleurs. Pourquoi est-ce que je me poserais des questions ? Mais c'est une question vraiment difficile. Et ouais, la green card, on l'a prise parce que ça nous offre de la stabilité, mais c'est vrai qu'on ne sait pas. Et on ne sait vraiment pas.
Bon.
On a aussi pensé à se rapprocher de la côte Est pour avoir moins d'heures d'avion, pour être plus près. Mais tout ça, c'est juste des gros, gros points d'interrogation. En fait, c'est vraiment, on ne sait pas.
Forte de toutes ces expériences que tu as eues là, sur 2 différents continents et dans 3 pays différents, 4 avec le pays d'où tu viens, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de t'expatrier ? Un conseil que tu pourrais partager avec nos auditeurs ?
Je pense que le truc que j'ai envie de dire, c'est que tu t'adaptes et que... Tu le sais pas au début que t'es fort et que tu peux t'adapter, mais que en fait tu t'adaptes à tout et que quelque chose peut avoir l'air super compliqué et puis en fait quand t'es dedans ça va.
Mm-hmm.
Enfin dans notre cas parce que ça dépend des gens, mais moi c'est vraiment l'adaptabilité à toute épreuve que j'ai découvert et tu peux avoir peur mais tu t'adapteras en fait à tout Et il y a des trucs que tu trouves surréalistes au début et après, tu sais plus t'en passer, quoi.
C'est clair. Les supermarchés ouverts la nuit ou les choses...
Bah, au début, tu comprends pas l'intérêt et puis après, ouais. Écoute.
Puis après, en fait, tu te rends compte que c'est un pays qui marche pour tout le monde et que les infirmiers qui bossent de nuit, ils peuvent aller faire leurs courses à 5h du mat quand c'est fini en shift. Enfin, je sais pas, il y a des choses comme ça, effectivement, où je me souviens, un truc qui m'avait choqué, c'était que tu puisses retirer de l'argent au distributeur en restant dans ta voiture. En gros, pour moi, si tu veux, j'appelais à l'époque le McDrive du distributeur de tubes. Et parce que pour moi, le seul endroit où tu restes dans ta voiture pour faire quelque chose, c'était au McDo, quoi, tu vois, en France. Et en fait, ayant vécu à Buffalo,
quand il fait
moins 40, c'est vachement pratique quand même de ne pas avoir à sortir de ta voiture et de survivre, quoi.
Mais j'y avais pas pensé parce qu'on n'a pas ces conditions météo ici. Mais c'est clair. Et t'as ce côté où tu te dis pas, mon Dieu, j'ai prévu telle recette et il me manque la moitié, et bah tant pis. Non, pas tant pis, parce qu'il y aura toujours un truc qui va être ouvert pour que tu puisses y aller, en fait.
Ouais, c'est ça.
Et ça, ça change la vie, hein. C'est super. C'est quoi le mot? C'est pas confortable, mais c'est.
Si, c'est un côté rassurant, en tout cas.
Convenient.
C'est pratique.
Merci.
Bon. Eh bien, écoute, c'est un très long épisode. Je pense que ce sera notre plus long épisode.
Je suis désolée, je suis bavarde, un truc de fou.
Non, sois pas désolée, c'est super intéressant. En tout cas, Caroline, je te dis un grand merci. Un grand merci, en tout cas, donc, d'avoir partagé tes expériences et vos expériences à tous les deux et tous les trois. Comme tu le sais, donc, à la fin de chaque épisode, on demande à nos auditeurs, à nos invités, de partager trois lieux qui, selon eux, définissent leur lieu d'expatriation. Ensuite, en fait, Manon les référence sur notre compte Mapster. Et c'est là donc, qu'on retrouve toutes les bonnes adresses de tous nos invités depuis le début du podcast. Alors, quels seraient ces trois lieux pour toi, Caroline?
Alors, trois lieux que tu ne devrais pas louper sur Berkeley. Parce que je suis à Berkeley, du coup.
Berkeley, tu as raison, comme tu le souhaites, ouais.
Ah, je pense que je vais te parler de Berkeley. Donc, en fait, moi, j'ai une addiction de fou depuis qu'on est arrivé, depuis le premier jour où on est arrivé ici. Je suis complètement addict au bubble tea, donc au boba. Du coup, moi, ce que je te dirais, c'est si tu es à San Francisco, va chez Boba Guys, n'importe lequel. Du coup, c'est des boules de tapioca dans du thé. Tu bois ça avec une grosse paille.
Ouais.
Et c'est le truc, tu vas voir tout le monde ici boit ça tout le temps. si t'es à SF, Boba Guys, tu vas voir la file est désespérante, mais ouais. Ça avance. Je te jure, un truc de fou, c'est, il y a des fois, t'as vraiment envie, et puis tu vois que la file, elle est, je sais pas de combien de personnes, mais voilà, t'y vas quand même, parce qu'il faut. Si t'es à Berkeley, je te dirais d'aller à Ashati House. Pour boire ton boba ou ton thé. Et un truc que j'adore à Berkeley, c'est une pâtisserie qui a tendance asiatique, je ne sais pas comment la définir exactement. Ça s'appelle Third Culture Bakery, donc third comme troisième, parce que en tant que bonne francophone, j'ai un mal de chien à faire les TH. Donc voilà. Et en fait, eux font des mochi donuts et des mochi muffins. Qui sont une tuerie à tomber par terre, un truc de c'est génial, c'est gluten free, je mange pas sans gluten, mais c'est vraiment phénoménal. Donc si tu passes à Berkeley, il faut absolument que tu ailles là-bas. Et tu m'appelles et je viens avec toi, comme ça j'aurai une excuse pour y aller.
Avec grand plaisir.
Mais c'est vraiment une tuerie. Sinon, il y a l'université de Berkeley, évidemment, qui est vraiment chouette pour se balader. Alors, pour avoir visité d'autres universités par ici, elle n'est pas aussi impressionnante que Stanford ou d'autres, mais elle est vraiment chouette, elle est très, très verte, elle est vraiment, vraiment, vraiment agréable pour se balader. Elle est vraiment toute mignonne. Il y a même parfois, si tu pousses certaines portes, elles sont ouvertes et du coup, tu peux rentrer dans les bâtiments et te balader, même si tu n'es pas étudiant. Donc, on a trouvé un squelette de dinosaure la dernière fois comme ça. C'était super cool. Écoute, à San Francisco, t'as les gros trucs, quoi. Je sais pas quoi dire, en fait. SF est super joli. Un truc vraiment chouette à faire, c'est d'aller à Mission Dolores Park et tu te poses là un jour d'été. Et en fait, ce qui va être top, c'est que tu vas pouvoir, en plus de profiter de la vue sur la ville qui est dingue, tu vas pouvoir observer la vie de San Francisco, parce qu'en fait, dès qu'il fait chaud, tout le monde va à Mission Dolores Park. Et du coup, le nombre de personnes au mètre carré est impressionnant, le nombre de chiens au mètre carré aussi. Et en fait, c'est vraiment représentatif de San Francisco, un truc de dingue, quoi. C'est une mixité de gens, de cultures, de vêtements ou d'absence de vêtements aussi. Donc, c'est une expérience à vivre quand il fait chaud et que c'est un jour férié. Tu vas à Dolores Park. Et puis, tu vas à Dolores Park, tu pars en boba et voilà.
Super. Écoute, merci beaucoup. On remettra donc toutes ces bonnes adresses et ces bonnes suggestions sur notre compte Mapster. Et puis, moi, ça me donne envie. Tu vois, ça fait quelques années que je ne suis pas venue à San Francisco. C'est très sympa.
Évite juillet-août. Pitié, évite juillet-août. Parce que juillet-août, c'est la période où tu ne vois rien. D'ailleurs, tu ne vois pas le pont. Ouais. Et d'ailleurs, le mois d'août à San Francisco s'appelle Fogust. Donc voilà, c'est parce que le fog en août c'est terrible, il fait froid, il fait brumeux et ne vient pas en août.
Très bien, c'est noté.
Sinon tu diras à tout le monde, mais il y a pas de pont à San Francisco, il y a pas de pont, le Golden Gate.
Non, je suis déjà allée dessus, donc ça va.
Ça va alors. Mais parce que ouais, en août ma famille est venue en août et ou en juillet, mais pareil, c'est le même combat, quoi. C'est la pire saison pour venir. Pour venir en septembre ou en octobre, quand c'est l'été indien, et après tu as Joe Dassin dans la tête, mais voilà. Mais c'est vraiment bien en octobre ou en septembre, c'est là que c'est beau.
Eh bien, mais écoutez, tous les auditeurs, j'espère que vous en prenez bonne note. Caroline, écoute, merci infiniment d'avoir partagé toute ton histoire et toutes tes expériences. C'était super intéressant. Un grand merci. On te souhaite, ainsi qu'à toute ta famille et à ton chien, bien sûr, une excellente continuation.
Merci.
Si vous décidez de bouger, que ce soit sur la côte Est ou un retour en Europe ou que sais-je ailleurs, en tout cas, on sera ravis de suivre la suite de tes aventures. Sur Instagram, on peut te retrouver sur ton compte. Tu peux me rappeler ton compte ?
Spas Citron.
Bon, écoute, encore merci Caroline. Excellente continuation.
Merci à toi. Merci à toi. À bientôt. Passe une bonne soirée. Bye bye.
Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous souhaitez retrouver les bonnes adresses de notre invité, rendez-vous sur Mapster. Cherchez notre compte French Expat, le podcast tout attaché, et vous retrouverez ainsi toutes les bonnes adresses de tous nos invités d'ailleurs, un peu partout dans le monde. Merci infiniment à vous d'avoir écouté ce tout nouvel épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser plein d'étoiles et un avis sur Apple Podcasts. C'est le meilleur moyen de nous aider. D'ailleurs, je tiens à remercier Élise de Los Angeles Off-Road, qui était d'ailleurs une des invitées de Laetitia en fin d'année dernière, qui nous a laissé 5 étoiles et un super avis sur Apple Podcasts, des histoires passionnantes d'expatriés. En tant qu'expatriée, j'aime écouter les histoires toujours uniques des autres expats dans tous les pays du monde. Toujours drôle et sans se prendre la tête, les interviews sont à écouter d'urgence. Élise, un immense merci à toi d'avoir pris le temps de nous laisser un avis. Merci pour ta fidélité. Sachez que vous pouvez également nous soutenir en partageant cet épisode avec votre entourage, un futur expat qui se pose plein de questions ou encore un expat qui pourrait se retrouver dans notre communauté, par exemple. Pour plonger dans les coulisses du podcast, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn, @FrenchExpat, le podcast. Pour retrouver tous les liens vers tous les épisodes, les plateformes, les réseaux sociaux, c'est encore plus simple, direction notre site internet FrenchExpatPodcast.com. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt!
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.